Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Il est 9h40 sur France Inter, l'instant M est de retour dans vos oreilles.
C'est énorme ce qui s'est passé les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Plongée dans les tranchées d'une guerre invisible, une guerre théorisée par les Russes, menée méthodiquement contre l'Occident. Une guerre de l'information dont les chars blindés les mieux repérés sont une chaîne de télé et un site d'info, RT et Spoutnik, financés par le Kremlin et opérant en France. Mais l'enquête que nous vous racontons ce matin va beaucoup plus loin. Elle met des visages sur une armée de l'ombre, celle des trolls, agents de déstabilisation attaquant les opinions publiques sur le web. Ils sont convaincus d'avoir fait élire Donald Trump depuis Moscou et d'avoir tout donné pour envoyer Marine Le Pen à l'Élysée.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Paul Moreira.
Bonjour, bonjour.
Guerre de l'info au cœur de la machine russe, 20h50 sur Arte 1 qui consacre toute une soirée à la Russie de Poutine, qui développe aussi une web-série passionnante, je vous en parlerai tout à l'heure, qu'on peut retrouver. Voilà, on va en parler dans un instant. Salut à toi Romain Nigita.
Bonjour Sonia.
Les mardis en série, c'est reparti avec de grosses chocottes au menu. Hein, on dit un mot de l'actualité des séries, puis ensuite on en arrive à la Russie. Nox a commencé hier soir sur Canal+, mais le pire est à venir. Les deux premiers épisodes étaient très axés sur l'enquête policière. Bon, pas passionnant, on
non,
va dire.
Non, pas vraiment, les deux
non,
premiers épisodes.
Non, pas passionnant, bref. Mais la suite relève du pur film d'horreur.
En effet, hier soir, c'était donc une mise en bouche assez banale, mais dès la semaine prochaine, la flic opiniâtre incarnée par Nathalie Baye va se perdre dans les galeries du sous-sol parisien. Elle va y croiser un tueur masqué ainsi qu'un spécialiste du démembrement de cadavres. Au programme, corps suspendu à des crocs de boucher et ongles arrachés.
Les ongles, ça sert à rien.
Ça sert à rien? Rien du tout.
C'est bon. Bon appétit si vous êtes encore au petit déjeuner. Bienvenue sur France Inter.
Voilà donc les ongles de Nathalie Baye, ça ne sert à rien. C'est donc une plongée dans la terreur au sens
propre. C'est les ongles de Nathalie Baye.
C'est Nathalie Baye qu'on entend gémir. Et on trouve donc dans ces prochains épisodes des séquences qui font référence au classique de l'épouvante, Le silence des agneaux, Halloween, Massacre à la tronçonneuse et même The Descent.
Voilà, donc on l'a bien compris, à la télévision, on n'est pas au cinéma, on ne peut pas tout montrer à la télévision, la télévision étant quand même supposée être tout public. Alors, comment s'y prend-on pour faire flipper le téléspectateur, Romain ?
Eh bien, il y a deux écoles. La première consiste à jouer sur la suggestion. Mm-hmm. Ça permet d'éviter les foudres de la censure. Dès 1959, la télévision américaine connaît une vague de tension accompagnée par cette petite musique. Et avec la quatrième dimension, puisque c'est ça dont on entend le générique, le scénariste Rod Serling plonge le téléspectateur dans un état de tension et d'épouvante, sans montrer ni cadavre ni goutte de sang. Mais le rebondissement final de chaque épisode en fait un véritable cauchemar éveillé.
Alors, autre école, insérer des monstres dans une fiction à première vue inoffensive.
Comme dans un soap opéra, par exemple, ce qu'a fait la série Dark Shadows entre 1966 et 1971. Imaginez Plus belle la vie, version gothique, avec des vampires et des loups-garous.
Non, pas du tout.
Eh bien si, ça a existé. Johnny Depp et Tim Burton ont été tellement marqués par cette série qui était diffusée lors des après-midi de leur enfance qu'ils en ont fait un film 40 ans plus tard, c'est vous dire. Technique similaire, une série policière dans laquelle le FBI enquêterait non pas sur des banals tueurs mais sur les créatures les plus horribles. Ça donne donc X-Files. À partir de 1993, Mulder et Scully chassent les bestioles les plus épouvantables, mais dans des épisodes structurés comme la série policière New York District, avec le lieu et l'heure qui s'inscrit en bas de l'écran.
Voilà, alors en fait, le gore va exploser à l'écran avec l'avènement du câble dans les années 2000, c'est-à-dire la télé par abonnement.
Tout à fait. Et depuis 2010, on a donc The Walking Dead, dont on entend le générique.
Une série, beau cette musique.
Une super musique de Bear McCreary, l'un de mes compositeurs de séries préférées. Et Walking Dead donc lâche ses hordes de zombies ultra réalistes dévoreurs de chair humaine. Ils doivent tout à George Romero, le réalisateur de La Nuit des Morts Vivants, un réalisateur qui avait lui-même profité du flou de la censure sur les chaînes locales américaines au milieu des années 80 pour produire la série Histoire de l'autre monde, une version sanglante de la quatrième dimension. D'autres créateurs de films d'horreur lui ont emboîté le pas. En 1988, c'est le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse qui lance une série présentée par Freddy Krueger.
En personne.
En personne, le tueur aux gants bardés de lames tranchantes. Et en 2005, c'est l'anthologie Masters of Horror qui réunit les maîtres du genre. Mm-hmm. Une série qui était diffusée sur la chaîne payante Showtime, qui diffusait également Dexter, mais qui avait eu peur d'un épisode qui n'a pas été diffusé tellement il était sanglant même pour eux.
Oh, ah oui, d'accord, à ce point-là.
Tout à fait, mais entre-temps, on peut se rendre compte que le gore s'est invité partout, dans Nip Tuck, dans Spartacus, et ce n'est vraiment plus un tabou.
Voilà, alors c'est tous les lundis soirs sur Canal+, Nox avec Nathalie Baye qui...
Et ses ongles, ou pas.
Ou pas, c'est ça. Âme sensible, s'abstenir à partir de lundi prochain. Merci Romain.
L'instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Paul Morera, on ne va faire que piocher dans cette heure et demie d'enquête très dense et absolument passionnante qui sera diffusée ce soir à 20h50 sur Arte. Écoutez l'une des rares apparitions au micro de Constantine Rykoff. Il est l'homme clé du système que vous reconstituez minutieusement. Il s'exprimait dans une émission diffusée sur Internet au printemps dernier.
La guerre de l'information, tu connais ?
Je connais un peu, oui.
Et alors ?
Je connais, c'est tout.
Des détails ?
Pourquoi avons-nous combattu ? Pour qu'Hillary ne devienne pas présidente. Même si le diable avait été candidat à la présidentielle, on l'aurait soutenu. Qu'est-ce qui intéresse les médias modernes ? C'est savoir ce que Trump peut apporter de nouveau. On a travaillé là-dessus, on l'a favorisé, et on a entraîné les Américains derrière nous. On a réussi notre coup, Trump est président. Marine, malheureusement, n'est pas devenue présidente. Je ne participerai plus jamais à ce genre d'histoire. Un truc a marché, et pas l'autre.
Paul Morera, quand on est journaliste d'investigation, on travaille, on creuse un sujet et d'un seul coup, une pépite comme ça y est, elle apparaît, un masque tombe. Absolument. Qui est-il, Constantine Rykoff ?
Constantine Rykoff, c'est vraiment, quand on parle de hacking de trolls, en fait, de toute l'action du Kremlin sur Internet, c'est le personnage au centre de l'échiquier. Il est passé totalement sous le radar. Si vous le tapez dans Google, il n'y a pas de papier sur lui dans le New York Times, il n'y a pas de papier sur lui dans Le Monde, dans la presse de référence, a pas réussi à le coincer, n'a jamais donné d'interview à la presse étrangère. Moi, j'ai réussi à le coincer en caméra semi-cachée dans un café, alors qu'il y avait un garde du corps devant son alcôve, etc. Il me dit, je suis juste un fan club.
Alors, un fan club, parce que quand même, ce soir-là, dans le café, on attendait la possible élection de Marine Le Pen.
Absolument.
Voilà, donc vous étiez français, vous étiez là, c'est l'homme de l'ombre. Il n'apparaît absolument nulle part, et pourtant, dès 2016, c'est ce que vous dites, il a réuni une équipe pour aider Trump, dont il va fêter alors là ostensiblement la victoire à Moscou. Constantine Rykoff, il ne parle pas, on ne le voit pas, mais dans la lumière, il a un visage, il a un très très beau visage, celui de Maria, silhouette parfaite, couronne de fleurs bleues dans les cheveux, star des réseaux sociaux. Qui est-elle ?
Maria Katasonova, c'est une russe, très jeune russe de 22 ans, très jolie, et qui travaille pour lui. Elle est un peu le visage, c'est un ancien mannequin. Et la première fois qu'elle apparaît mondialement, c'est quand elle brandit un triptyque lors d'une de ses conférences de presse géantes de Poutine. Elle brandit un triptyque avec trois images qui sont pour eux les visages du nouvel ordre mondial pour lequel ils travaillent. Il y a le visage de Poutine, le visage de Trump, et le visage de Marine Le Pen.
Faut raconter à quoi il ressemble ce triptyque, parce que ce ne sont pas trois photographies, c'est de la peinture à l'ancienne, on dirait un portrait de Rembrandt.
C'est à la fois très impressionnant, un peu risible, parce qu'ils sont tellement embellis. Et Trump, il a genre 40 ans de moins sur l'image. Marine Le Pen, on dirait un mannequin. Poutine, il est magnifique. Donc c'est le nouveau réalisme poutiniste.
C'est ça.
Et ça frappe l'opinion, c'est-à-dire qu'ils ont compris ce que c'est qu'un mème, ils ont compris ce que c'est que la viralité d'Internet, ils saisissent ça très 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 bien.
Un mème, on fabrique une image et elle va être reproduite à l'infini sur les réseaux sociaux.
C'est un virus sur Internet. Et ça, cette image-là, de cette très jolie fille en rouge qui brandit ces trois images, elle est partout, du New York Times au Guardian, en passant par Le Pays, toute la planète va brusquement renvoyer cette image d'un projet qui est le projet du nouvel ordre mondial national poutiniste.
Alors la jeune Maria se rend en France pendant nos élections présidentielles, pendant la campagne, vous la traquez, vous prenez des trains, vous la suivez partout, vous échangez avec elle, vous la ratez systématiquement, etc. Mais il y a un moment quand même, devant les caméras, elle va venir offrir une copie du triptyque à Marine Le Pen, qui n'hésite pas à dire devant des micros, je sais...
Micro-russe, hein.
Des micro-russes, mais quand même, aujourd'hui un micro-russe, c'est plus un micro-russe, on le sait tous. qui dit « Je sais tout ce que vous faites pour nous, merci de vous activer comme cela sur Internet pour servir nos combats communs.
» Partage ça avec Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'ils ont compris que pour eux, le combat se passait sur Internet. D'ailleurs, on a glané des déclarations de Marine Le Pen qui encouragent ses militants et même ses électeurs à aller sur Internet, à répercuter des informations. Ça veut dire souvent des fake news. Parce que, soyons clairs, autant sur les médias, on peut à peu près contrôler le contenu de ce qui est publié, y compris sur RT et Spoutnik, hein, qui a beaucoup moins de fake news qu'on le pense. Mais sur Internet, c'est zéro contrôle. Et c'est là que se crée la manipulation de la perception du public aujourd'hui. Et c'est ce que les Russes ont très bien compris. Et je dois dire, moi, c'est un des trucs qui m'a frappé, parce que je ne suis pas un spécialiste de la Russie, mais donc j'ai gardé en tête un peu le stéréotype de l'agent d'influence russe, comme on l'a tous, le mec avec le petit chapeau, la gabardine sombre et le costume. Une tergale. Mm-hmm. En fait, c'est un hipster.
KGB.
Voilà, c'est un hipster. Le mec d'extrême droite qui travaille pour Poutine, c'est un type qui ressemble aux gens qu'on croise à Brooklyn.
Alors, vous avez quand même réussi à en attraper un ou deux à Moscou et à Saint-Pétersbourg, parce que Maria, c'est la face, on va dire, la plus identifiée de cet iceberg numérique. Et vous pistez justement ces soldats complètement invisibles, hein, qui constituent en fait l'immense majorité des troupes. Vous les appelez des trolls. Vous redonneriez une définition du troll?
Oui, alors le troll, en fait, c'est un agent d'influence sur Internet. C'est quelqu'un qui va intervenir sur les réseaux sociaux, mm-hmm. quelqu'un qui va répercuter un mème ou une fake news mm-hmm. sur Facebook, sur Twitter. En fait, c'est quelqu'un qui va viraliser un maximum des idées ou des informations.
Voilà.
La plupart du temps fausse.
Alors, système qui aurait trouvé sa vitesse de croisière lors de la guerre en Ukraine, hein, c'est de là que vous datez le début de la guerre idéologique moderne. L'un de ces trolls, justement, témoigne pour vous.
Dès la première journée, on m'a confié un site comme s'il s'agissait d'un site ukrainien. Et on m'a dit, trouve des infos sur l'Ukraine, tu les mets à notre sauce russe et tu les publies sur le site. J'ai vu qu'il y avait des annonces où ils cherchaient des gens qui pouvaient écrire en ukrainien et en anglais. Soi-disant pour créer du contenu, mais ça voulait dire faire le troll en fait. C'est comme le travail d'une prostituée. Tu travailles, mais tu n'en parles à personne.
Bienvenue en Russie, hein, où la référence c'est le travail clandestin, c'est le travail de la prostituée. Donc Paul Morera, vous êtes tombé sur une usine à trolls.
Une fabrique à trolls. Alors, à vrai dire, c'est pas moi qui l'ai découvert, parce que le New York Times Magazine avait déjà fait un premier papier sur cette usine à trolls. Mais ce qu'on ne savait pas jusqu'à mai dernier, c'est-à-dire au moment où je m'y rends, c'est que cette usine à trolls a fabriqué des centaines de pages Facebook prétendument américaines. En fait, elles étaient entièrement fabriqué à Saint-Pétersbourg par des gens qui travaillent. Hein, ils ont des horaires, hein, ils arrivent à 8h, ils repartent à 17h, puis il y a une nouvelle équipe. C'est des
shifts, c'est
non-stop.
Hein. Hein,
ouais, en permanence, ils travaillent en permanence. Et donc 400 pages Facebook avec des
exemple,
groupes.
Secure Border.
Secure Border, c'est un groupe Facebook soi-disant américain qui fait la campagne de Trump en reprenant les thèmes de la campagne de Trump. C'est-à-dire, oui, attention, l'immigration va nous apporter de la délinquance, en répandant des idées totalement fausses. Il est prouvé que 30% des enfants d'immigrés illégaux sont membres de gangs criminels. Si ça vous choque, partagez, likez, partagez. Et donc, comme ça, des dizaines, l'histoire du grand remplacement aussi, des choses qu'on connaît en France. La
et même,
chose.
Vous identifiez une manif raciste à Austin, ça, avec une contre-manif organisée par des mouvements musulmans, et vous dites finalement, piloté, attisé depuis
Saint-Pétersbourg. Ouais. Et ça, c'est ce qu'ont découvert le Congrès américain, les membres du Congrès américain, quand ils font leur enquête, et ils s'aperçoivent qu'en fait, cette manif et cette contre-manif, qui par chance n'a pas dégénéré, mais où quand même c'était assez violent, avait été organisé par deux fausses pages Facebook qui ont été fabriquées à Saint-Pétersbourg, avec deux angles complètement différents. Une page qui défendait les musulmans, avec un côté un peu radical, un peu islamiste, et une page d'extrême droite, quasiment néo-nazie américaine.
Tout ça concocté depuis
Saint-Pétersbourg.
Voilà. Alors prenons les problèmes de votre enquête, Paul Morera, les uns après les autres. Le plus épineux, comment établir un lien entre ces hackers et le Kremlin ? On écoute Vladimir Poutine.
Les hackers, c'est des gens libres. Comme les peintres. Si le matin, ils se lèvent de bonne humeur, ben voilà, ils vont aller peindre. Et s'ils sont patriotes, ils commencent à écrire une riposte adéquate contre ceux qui diffament la Russie.
Des artistes, des gens libres et librement inspirés. Qui paye pour cette usine à trolls? Manifestement, Eugène Prigogine, ancien restaurateur du Kremlin, mais en même temps, impossible de faire le lien.
Impossible. Alors ça, c'est quelque chose qui est très particulier à la Russie. C'est qu'en fait, il y a un premier cercle. C'est ce que m'ont raconté tout de suite les journalistes d'investigation russes avec lesquels j'ai travaillé, qui sont excellents par ailleurs, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. C'est qu'il fait attention.
Et ils sont largement cités hein, dans l'enquête.
Il faut vraiment leur rendre hommage. Il y a un premier cercle, et après c'est extrêmement étanche entre le premier cercle, qui est celui de Poutine et de l'administration du Kremlin, et un second cercle qui est beaucoup plus actif. Et donc tout le boulot des journalistes d'investigation russes, et le mien en l'occurrence,
C'est de faire le lien. Alors en même temps, il y a des hackers ennemis qui ont pénétré ordi et téléphone des proches du Kremlin, dont celui de Timur Propenko, qui est chargé, alors là pour le coup, de la propagande du Kremlin. Et on tombe sur un dialogue sans ambiguïté entre ce type et le fameux Rykov qu'on entendait au début. Comment faire dire à Marine Le Pen en France ce dont les Russes ont besoin, c'est-à-dire bravo à l'annexion de la Crimée?
Exactement. Ça, c'est le lien. C'est-à-dire que c'était très très compliqué à établir, et pour tous les Russes, le jour où les hackers, qui en fait étaient des pirates, hein, ils ont vendu ces informations aux enchères sur Internet, peu importe, elles étaient exactes. Il y a des journalistes qui les ont achetées.
Elles ont été épluchées, fouillées, croisées dans tous les sens. C'est fiable.
Voilà. Et donc j'ai réussi à coincer Rykov dans ce fameux café de Moscou, et je lui pose des questions là-dessus. Et il me dit, la réponse habituelle, c'est un fake. Ça a été fabriqué, ce qui est totalement faux.
Mais ce qui est génial mensonge là dans cette mine de données, c'est que là vous avez deux liens, c'est-à-dire le lien entre Rykov et le Kremlin, c'est déjà énorme, et le lien entre Rykov et le Front National en France.
Absolument. Un lien très exécutif, puisque le gars du Kremlin demande à Rykov, est-ce que tu sais, il sait qu'il connaît des gens au Front National. Est-ce que tu peux convaincre Marine Le Pen de venir faire le voyage en Crimée pour légitimer donc l'annexion de la Crimée par les Russes?
Alors, il faut dire que Marine Le Pen, Paul Moreira, elle est en dette par rapport à la Russie. Cette info, on la doit à Mediapart, 12 millions d'euros de prêts bancaires. Et vous creusez cette information et vous interviewez celui qui a servi d'intermédiaire entre cet argent russe et le Front National, en montrant que forcément, ça s'est fait avec le blanc-seing du Kremlin.
Et là, on en rentre dans un peu le domaine du scoop, parce que c'est vrai qu'il n'avait jamais parlé en France. Un monsieur qui s'appelle Jean-Luc Schaffhauser, qui est lié au Front National, c'est un député européen qui a un nombre de contacts immense en Russie. Il a aidé des grosses boîtes à s'installer en Russie, donc il avait vraiment beaucoup, beaucoup de contacts. Et donc il accepte au bout de plusieurs mois, j'ai vraiment galéré pour l'avoir devant une caméra, c'était pas du tout aisé, il accepte de me livrer quelque chose. Et il avait une sorte de mission, ce que j'ai ressenti assez vite pendant l'interview, c'est d'essayer de dissocier Vladimir Poutine de la décision du prêt. Et moi, ma mission, c'est de dire comment peut-il être dissocié dans la mesure où le type qui va prêter l'argent, Babakov, il est membre de l'administration du Kremlin. Alors, il s'est bouché les oreilles, Vladimir Poutine. Et donc, on a effectivement une interview assez drôle où...
Globalement, vous parvenez à vos fins.
Voilà.
Globalement, vous parvenez à vos fins. Merci beaucoup, Paul Moreira. Je l'ai dit, on n'a pris qu'un petit morceau de cette enquête qui dure une heure et demie, qui est très dense, qui est passionnante, qui est extrêmement riche, qui nous emmène aussi en Allemagne. Vous avez interviewé aussi la responsable de RT et de Spoutnik et la façon dont elle travaille en France. Tout ça est très, très éclairant. C'est diffusé ce soir à 20h50 sur Arte. C'est la fin de l'émission. Ali Rebéi, salut. Vous auriez dû inviter Vladimir Poutine dans votre émission qui est consacrée à la peur.
À la peur.
Peur.
Pourquoi la peur contamine-t-elle nos sociétés? Pourquoi elle gouverne nos vies quotidiennes, nos vies économiques, médiatiques, politiques?
Et comment
Et surtout, est-ce qu'il existe un lien entre nos phobies et anxiétés personnelles et les peurs qui nous assaillent de toutes parts? Vous pouvez témoigner au 01 45 24 7000.